Radio Okapi.
Le journal. Pascal Masirika Bissimo.
Les titres de l'actualité, 14 morts et 35 blessés graves. Bilan provisoire dressé par le gouverneur du Nord Kivu après le largage des bombes sur les sites de déplacés près de la ville de Goma. Le général Peter Tshirimwami appelle ses administrés à la résistance face à une guerre d'agression. 48 heures nous séparent des épreuves hors session de l'examen d'État. Au Maniema, le directeur de la province éducationnelle a réuni ce week-end tous les chefs d'établissement pour leur rappeler les instructions. Notre invité, c'est le responsable des activités de MSF à Rusayo, au Nord Kivu, Dr Jean-Paul Kassolua, affirme que plus de 20 000 familles déplacées ayant fui la violence ont trouvé refuge sur un nouveau site informel à Rusayo 3, où il manque de tout. Madame, messieurs, bonsoir. 14 morts et 35 blessés graves. C'est le bilan provisoire des explosions des bombes enregistrées vendredi sur les sites de déplacés près de la ville de Goma. Dans une déclaration faite ce soir, le gouverneur parle de crimes de guerre. Le général Peter Tshirimwami appelle ses administrés à la résilience et à la résistance face à une guerre d'agression. On l'écoute, un extrait choisi par Sif Magourou.
C'est déplorable, c'est un crime de guerre parce que c'est une population déplacée qui vient des zones sous l'emprise de l'ennemi, qui sont venus se réfugier dans les milieux sécurisés, mais curieusement, ils sont victimes de la barbarie des agresseurs. Nous déplorons les bilans que nous sommes en train de communiquer, qui peut évoluer dans les heures qui suivent, mais pour l'instant, nous avons 14 morts et 35 blessés. Et en grand nombre, ce sont les enfants et les femmes. Ce que nous disons, ces innocents, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal pour fuir la rébellion et venir se réfugier dans les milieux sécurisés? C'est déplorable et nous condamnons fermement ces actions barbares qu'on mène sur les populations innocente. Nous sommes en train de réfléchir avec ceux qui s'occupent des opérations pour voir quel remède face à cette barbarie. Et je sais que le président de la République, chef de l'État, est en train de mettre tout en œuvre pour que les opérations se fassent. Et la réponse idéale pour moi pourrait venir de ceux qui commandent les opérations. Le message, c'est en fait la résilience. Nous n'avons pas où aller, c'est notre pays. Nous devons continuer à résister, essayer de compatir ensemble, se tenir main à main, mais aussi continuer à plaider pour que l'opinion internationale ne puisse pas garder le silence.
Nord Kivu encore, l'Assemblée provinciale et les organisations féminines condamnent aussi les bombardements d'hier, vendredi. La société civile qualifie quant à elle les coupables, le silence du gouvernement congolais. Les députés provinciaux se disent profondément préoccupés par les massacres des civils a béni par des rebelles ougandais de l'EDF, la guerre du M23 et l'insécurité généralisée à Goma et dans les territoires de Masisi, Rutshuru et Nyiragongo. Les condensés de toutes ces déclarations avec vous, Sifa Magourou.
Ces structures de la société civile accusent d'une part le gouvernement congolais d'adopter une position ambiguë face à la souffrance de la population. Les forces vives désapprouvent également les tactiques militaires sur terrain caractérisées par le cessez-le-feu et les replis stratégiques que manifeste l'armée face à la progression de l'ennemi. La société civile note notamment la situation du 1er au 9 mars où les rebelles ont réussi à conquérir les grandes agglomérations comme Nyanzale et Kibiri, ainsi que la position stratégique des Rwindi sous les regards impuissants des militaires. Pour la société civile, ces agissements donnent un chèque à blanc à l'ennemi pour opérer impunément et exposer les populations à des crimes graves. La chute de Rubaya et Ngungu du 1er au 2 mai, ainsi que l'explosion des bombes dans les sites des déplacés, sont également repris dans la déclaration de la société civile. D'autre part, dans une déclaration signée par 26 organisations locales, les femmes du Nord Kivu demandent également la délocalisation des positions des FARDC qui sont aux alentours des camps de déplacés. Enfin, les élus provinciaux recommandent également aux FARDC de redoubler d'efforts pour récupérer les zones occupées et protéger celles qui sont encore sous son contrôle. Goma, Sifa Magourou, Radio Okapi.
Et puis les députés nationaux élus du Nord Kivu recommandent au gouvernement congolais de renforcer la sécurité
autour et dans les camps de déplacés du quartier Lac Vert à Mugunga, à Lushagala et près de la ville de Goma. Des précisions avec le porte-parole de ces députés, les propos d'Eli Vahoumaoua ont été recueillis par André Kitenge.
Nous, députés nationaux élus du Nord Kivu, réunis en urgence à ce jour, condamnons avec la toute dernière énergie ces actes cruels et lâches qui ont visé les populations civiles non engagées dans les hostilités et présentons nos condoléances les plus attristées aux familles des victimes et à la nation congolaise en général. Révoltés par ces ignobles crimes répétitifs commis par cette coalition terroriste, nous recommandons urgemment ce qui suit. Au gouvernement de la République démocratique du Congo de mobiliser tous les moyens nécessaires pour reconquérir les zones occupées par les agresseurs, de renforcer la sécurité autour et dans les camps des déplacés, de prendre des dispositions utiles pour assurer les funérailles dignes de nos compatriotes tués et la prise en charge adéquate des personnes blessées, de mobiliser la communauté internationale pour condamner sans ambages et sans réserve les attitudes criminelles du gouvernement rwandais.
À Kalemi, pendant ces temps, le coordonnateur du mouvement citoyen Vidiane Atulamouke RDC accuse certains policiers de rançonnement et d'arrestation arbitraire. En réaction à ces accusations, le commissaire provincial de la police nationale du Tanganyika invite la population à dénoncer au plus vite les auteurs de ces actes. Explication de Paul Emunanga.
Le mouvement citoyen Vidiane Atulamouke RDC fait part de son inquiétude au ministre provincial en charge de l'intérieur et de la sécurité du Tanganyika. C'est au sujet du comportement de certains policiers qui alimentent, d'après cette structure citoyenne, l'insécurité dans la ville de Kalemi. Le coordonnateur national de ce mouvement citoyen accuse certains policiers qui, d'après lui, ne sécurisent pas la population et ses biens. Koko Rwambuzo, merci.
Dans ces mois passés, il y a eu des femmes qui ont été arrêtées et tenues. Non seulement ça, il y a eu même des maisons qui ont été cambriolées, il y en a nombreuses. Nous qui savons que réellement les policiers qui sont là pour nous sécuriser, ils n'en font plus leur mission. On a brûlé un poste de la police au niveau de Kisebwe.
En réaction, le commissaire provincial de la police du Tanganyika demande à la population de dénoncer les policiers qui se livrent à ces actes répréhensibles. Commissaire divisionnaire adjoint Aimé Claude Wasongoloa.
J'ai été saisi aussi par cette organisation de la société civile. C'est vrai, il y a quelques policiers qui se permettent de se livrer à ces actes répréhensibles. Mais il ne faut pas accuser toute la police. Sur 100% des policiers, il y a peut-être 1% ou 2% qui se méconduisent. Et là, je voudrais demander à la population victime de dénoncer tous ces policiers-là.
Kalemi, Paul Munanga, Radio Okapi.
On enchaîne avec la Tchopo où les conflits intercommunautaires entre les Mbole et les Lengola continuent d'endeuiller plusieurs familles dans la commune de Lubunga. Au moins 6 personnes ont été assassinées par des assaillants ces 3 derniers jours. Exacerbées par la situation, les femmes réunies en séminaire sur la gestion et la résolution pacifique des conflits à Kisangani dénoncent cette situation. Elles l'ont fait savoir dans une lettre ouverte adressée au président Félix Tshisekedi. Ce samedi après-midi, elles ont rencontré l'évêque auxiliaire de Kisangani, Monseigneur Léonard Ndjadi Ndjate, pour solliciter son accompagnement. À Kisangani, la correspondance de Jacques Mkongole.
Dans leur lettre au chef de l'État, les femmes de la Tchopo réunies en séminaire sur le leadership féminin, la gestion et résolution pacifique des conflits dans la ville de Kisangani indiquent que le mode opératoire des assaillants est non seulement haineux, mais aussi qu'il n'est pas habituel dans cette province. Ce conflit date depuis une année et a provoqué des déplacements massifs des populations. Au moins 18 000 personnes ont abandonné leur village pour se retrouver dans les camps de déplacés à Kisangani. D'autres sont signalés dans des familles d'accueil. Et au moins 500 personnes ont perdu la vie. Les femmes de la Tchopo accusent le ministre de l'Intérieur de ne pas informer objectivement ni les conseils des ministres, ni encore moins le président de la République. Elles recourent directement au chef de l'État en sa qualité de garant de la nation pour que ces fléaux soient éradiqués. Ainsi, elles lui demandent de suspendre les activités de Cap-Congo, de diligenter une enquête sur les commanditaires de ces conflits et d'interpeller ceux qui en sont cités. Jacques Mkongole, Kisangani, Radio Okapi.
Dans un autre chapitre, lundi prochain auront lieu les épreuves hors session de l'examen d'État. Au Maniema, le directeur de la province éducationnelle affirme que tout est fin prêt. Et pour s'assurer du bon déroulement des épreuves, il a réuni ce week-end tous les chefs d'établissement de son ressort pour leur rappeler les instructions. Séraphin Mokito est au micro de Florence Kizalunga.
Dans ma province éducationnelle, tout est fin prêt. C'est dans ce cadre-là que nous avions réuni tous les chefs d'établissement pour faire le dernier réglage. Parce qu'il y a certains chefs d'établissement, verrez, quand vous communiquez les frais de participation et de leur côté ajouté ou multiplié. Les frais connus, c'est 72 000 francs. L'école qui osera, avec le chef d'établissement qui osera demander un rond en dehors de ce que l'autorité exécutive a demandé, nous avions pris toutes les dispositions pour les sanctionner selon la loi. Les conseils que je peux profiter de votre micro pour donner aux parents et d'encadrer leurs enfants, parce que les enfants sont dans une période de turbulence. Mais aux enfants aussi d'éviter la distraction, qu'ils soient concentrés. La dissertation, ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire que, oh non, il y a tel qui va travailler pour nous. Et je leur conseille de ne pas être dans la distraction, qu'ils soient calmes pour présenter le test de leur fille.
Justice à présent. Les conditions carcérales sont déplorables à la prison de Kenge. Nous sommes dans la province du Kwango. Les détenus n'ont pas de quoi manger depuis 4 mois. Les ministres provinciaux des droits humains tirent la sonnette d'alarme. Maître Adela Nkissi met le gouvernement central devant ses responsabilités. À Bandunduville, Irène Mboma Luzolo.
Construite depuis l'époque coloniale pour accueillir au maximum 50 personnes, la prison centrale de Kenge de la province du Kwango en regorge actuellement près de 240. D'après le ministre provincial en charge des droits humains, cette maison carcérale connaît une rupture des rations alimentaires depuis plusieurs mois, faute de subventions de l'État congolais. Du coup, les prisonniers souffrent de faim, a dénoncé Maître Adela Nkissi.
Nous sommes en rupture d'assistance ou de frais de fonctionnement que l'on envoie depuis 4 mois. Donc les prisonniers n'ont pas à manger. Nous avons reçu quelques assistances de l'Église catholique à travers la Caritas, mais ça ne suffit pas. Et aussi, il se pose un problème de logement. Les infrastructures ne répondent pas, hommes, femmes et enfants. Donc, il n'y a pas de distinguo. Il se pose un problème de droits humains.
Le ministre Nkissi, qui lance un SOS en faveur de ces incarcérés, propose la réhabilitation de la prison de Fechi pour désengorger celle de Kenge.
Pour désengorger la prison centrale de Kenge, si on peut avoir des moyens pour réhabiliter ne fût-ce que la prison de Fechi, ça nous aidera au moins à bien garder nos frères.
Pour sa part, la société civile du Kwango déplore également cette situation et invite le gouvernement congolais à prendre ses responsabilités. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
En Ituri, l'usine de production et de traitement de l'or de la Sokimo est opérationnelle depuis vendredi à Nizi, une localité située à une vingtaine de kilomètres au nord de la ville de Bounia. C'est grâce à l'acquisition des nouveaux équipements et engins. La délégation syndicale affirme que ces équipements vont relancer les activités et résorber le chômage des jeunes. À Bounia, la correspondance d'Isaac Remoyopé.
La Sokimo a acquis des nouveaux engins de production de minerais et des équipements pour l'usine moderne et de traitement de l'or ainsi que les laboratoires chimiques. Certains bâtiments pour ces projets qui étaient déjà vétustes ont été également réhabilités par les fonds propres de l'entreprise, a déclaré le directeur général de la Sokimo. Il annonce la production des premiers lingots d'or dans quelques mois et sollicite l'appui du gouvernement central. Pististokole Bonongo.
C'est un grand jour pour la Sokimo car ça fait 3 décennies depuis les années 90 que la Sokimo ait ses propres engins. Pour la production d'un premier lingot d'or, nous l'attendons dans quelques jours qui arrivent. L'attente de la Sokimo pour ce nouveau gouvernement, c'est de mettre sur la table notre projet de plan de relance.
Le syndicat des travailleurs de la Sokimo salue cette action du nouveau comité de gestion de cette entreprise qui permet la relance des activités, mais aussi de résorber le chômage des jeunes à risque dans cette province en guerre. Kasongolo Rima.
C'est grâce à la relance, c'est grâce à la production de l'or à Nizi que même l'État congolais va donner l'emploi à la jeunesse à travers la Sokimo.
Signalons que les agents de cette entreprise acquisent plusieurs mois d'arriérés des salaires. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Les Tchadiens s'apprêtent à se rendre aux urnes lundi prochain pour une présidentielle censée mettre fin, partiellement du moins, à une transition qui a duré 3 ans. Cette élection, que beaucoup pensaient jouer d'avance, se tiendra après 3 semaines d'une campagne électorale qui aura finalement suscité de l'engouement, mais aussi de tensions. Et puis une manifestation de soutien du régime militaire a eu lieu hier après-midi devant les locaux de l'ambassade américaine à Ouagadougou. Munis des drapeaux du Burkina Faso, du Mali, du Niger et de la Russie, les manifestants ont réclamé une clarification qui a été adressée à l'ambassade américaine après la déclaration américaine sur le rapport de Human Rights Watch accusant l'armée d'exaction. À l'origine de cette déclaration, il s'agissait de demander l'expulsion du chef chargé d'affaires de l'ambassade américaine à Ouagadougou.
L'invité.
Notre invité, c'est le médecin responsable des activités de MSF à Roussayo, au Nord Kivu. Docteur Jean-Paul Kassolia affirme que plus de 20 000 familles déplacées ayant fui la violence ont trouvé refuge dans un nouveau site informel à Roussayo 3, où il manque de tout. Il s'entretient avec Rosalie Zawadi.
Docteur Jean-Paul Kassolia, bonjour.
Bonjour.
Depuis quand vous avez commencé les activités médicales ici dans ces sites?
En fait, depuis l'événement de la crise et l'afflux des déplacés au niveau des camps Roussayo 3, nous avons commencé par une évaluation qui a daté de plus ou moins 3 semaines, mais le début effectif des activités de la prise en charge a duré au moins 2 semaines jusqu'à aujourd'hui.
Et quels sont les services offerts aux déplacés au niveau de ces postes de santé avancés des MSF?
Le service que nous offrons ici, c'est d'abord la prise en charge des enfants de 0 à 15 ans. Et cette prise en charge des enfants de 0 à 15 ans, ça comprend toutes les maladies. Ça comprend aussi la recherche active de la malnutrition des enfants de 6 mois à 59 mois au niveau des communautés. Nous avons aussi la prise en charge aussi de santé de la femme. Et pour la santé de la femme, ça concerne tout ce qui est les survivants avec violence sexuelle, tout ce qui est la planification familiale et tout ce qui est la santé de la reproduction de façon générale.
Il y a aussi un bloc pour la santé mentale, on a vu.
Effectivement, nous avons un bloc pour la santé mentale qui est juste derrière moi ici. Et ce bloc s'occupe justement des personnes en détresse mentale. Comme vous le savez, les personnes qui se déplacent, les survivants des violences sexuelles, ils ont souvent des problèmes aussi de santé mentale.
Et au niveau des enfants touchés par la malnutrition, combien d'enfants recevez-vous quotidiennement?
Avec les activités que nous avons lancées de la recherche active communautaire des enfants malnutris avec les femmes enceintes, les femmes allaitantes, minimum depuis cette semaine, nous commençons à recevoir entre 20 à 30 enfants malnutris.
Et de manière générale, combien de malades vous recevez ici, à part les enfants mal nourris?
De manière générale, par jour, nous sommes à plus ou moins entre 75 à 100 patients, ce qui fait un cumul de 2 semaines, on avait plutôt reçu 713 patients ici.
Et quelles sont les maladies les plus récurrentes qui touchent les déplacés de Roussayo 3?
Concernant les enfants, les plus récurrentes, c'est entre autres les infections respiratoires, la diarrhée, la malnutrition. Et nous avons aussi beaucoup de cas aussi de survivants avec violence sexuelle.
Alors, les sites ici de Roussayo 3, et là, depuis plus de 2 mois, vous commencez les interventions il y a 2 semaines. Avant, où se rendaient ces déplacés pour bénéficier des soins?
Les déplacés se rendaient dans le centre de santé qui est à 2 à 3 kilomètres d'ici. Il y a d'autres aussi qui se rendaient dans les cliniques fixes aussi des MSF à Roussayo 1 et aussi dans d'autres cliniques à Roussayo 2. Qui est supporté par toujours MSF et du Joanneter, ainsi que Première Urgence Internationale. Au départ, quand nous avions commencé notre investigation, le camp des déplacés ne constituait qu'à 6 900 ménages. Et actuellement, nous sommes déjà à 23 600 ménages, plus ou moins. Ça signifie qu'il y a une augmentation encore de la population. Et par jour, on a au moins 100 ménages, donc au moins 2 blocs qui se créent chaque jour depuis qu'on est là. Par rapport à l'origine de tous ces déplacés, il y a d'abord les nouveaux déplacés qui arrivent. Il y a aussi la saturation des autres cas, entre autres Roussayo 1, Roussayo 2, même Lushagala, Bouimba et Boulengo. La plupart étaient dans les hangars, ils étaient dans des maisons d'accueil. Et avec déjà l'installation des camps ici qui étaient de s'étendre, il y en a certains vraiment qui quittent les hangars pour venir s'installer ici. Et la présence de ces postes de santé aide effectivement à l'accessibilité aux soins de santé primaires.
Et à part les besoins sanitaires, quels sont les autres besoins auxquels font face les déplacés ici?
Effectivement, pour les soins de santé primaires, nous comblons vraiment les gaps ou bien les besoins, mais il y a encore d'autres besoins qui restent. Et les besoins, par exemple, en eau, où nous approvisionnons à l'eau, mais nous avons un besoin jusqu'à présent à 4,6 litres. Et le cas est en train de s'étendre, autrement dit, les besoins en eau vont aussi augmenter. La même chose avec les abris, plus ou moins 100 ménages que le camp reçoit et la distribution que nous avons effectuée resterait toujours encore d'activité un peu continuelle. On a vraiment besoin que cette activité puisse continuer. On a besoin vraiment d'un plaidoyer par rapport à d'autres acteurs pour qu'on se donne main par la main pour suppléer à tous ces besoins. Il y en a de même aussi pour la nutrition. Je crois que la dernière distribution, ça date de plus ou moins un mois et c'était le gouvernement qui avait donné quelques kits. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas encore de distribution.
Docteur Jean-Paul Kassoulois, je rappelle que vous êtes responsable des activités santé MSF au site de Roussayo 3. Merci.
Merci.
C'était l'invité de Radio Okapi interrogé à Goma par Rosalie Zawadi. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir écouté infiniment. Merci à Jide Bilanda qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale de Alain Rungmouchinche.